Radio Okapi.
Les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques et conventionnées de l'Ituri disent passer les festivités de fin d'année dans la galère. Et pour cause, les constats du retard dans le paiement de leur salaire du mois de décembre. Ils demandent au gouvernement de revoir son calendrier de paye des enseignants. La musique congolaise vient de perdre l'un de ses généraux. Le chanteur Lulendo Matumona, alias Général Defao, est décédé hier lundi 27 décembre à Douala au Cameroun, à l'âge de 62 ans. Une nouvelle que nous confirme son porte-parole. Enfin, Dr Jean Bosco Jaribou Mouliwavio est notre invité dans cette édition du journal. Il a soutenu sa thèse de doctorat vendredi dernier à la faculté des sciences politiques de l'université de Kisangani. Avec lui, nous parlerons de la vision des acteurs impliqués dans la recherche de la paix dans le Rwenzori. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques et conventionnées passent les festivités de fin d'année dans la galère à cause du retard de paiement de leur salaire de mois de décembre. Selon leur syndicat, le gouvernement alimente leur compte bancaire deux semaines après la fin de chaque mois. Isaac Remoyope y demande au gouvernement de revoir son calendrier de paye des enseignants.
Selon le président du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes de la communauté Emmanuel à Ituri, plus de 2000 enseignants de plus de 280 écoles n'ont pas encore reçu leur salaire des mois de décembre. Il ajoute que cette situation concerne tous les enseignants de l'Ituri, des écoles publiques et conventionnées qui sont payés chaque fois les 15 du mois prochain. Les enseignants de l'intérieur de la province perçoivent leur salaire après un mois, ce qui selon lui porte préjudice à leur famille qui passe cette période de fête dans la misère. Certains contractent des dettes remboursables avec intérêt pour pourvoir aux besoins de leurs enfants, acheter des habits neufs, des bassons et des mets spéciaux pour les festivités. Ces enseignants demandent au gouvernement de revoir son système de paye pour qu'il soit désormais payé à la fin de chaque mois. D'autres sollicitent une mesure spéciale du gouvernement pour que la paye de ces mois intervienne au plus tard le 31 décembre. De leur côté, les autorités scolaires locales se disent préoccupées par l'essor des enseignants en cette période des fêtes. Mais cette question relève de la compétence de leur hiérarchie. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis le marché Musée Laurent Désiré Kabila est l'un des plus grands que compte la ville de Lubumbashi à l'approche de la bonne année. Les acheteurs se plaignent de la révision à la hausse des prix de certains produits de première nécessité. Notre collègue Jean Gandou a fait un tour au marché central Musée Kabila. Voici son reportage.
À notre passage au marché central, les différentes allées étaient moins fréquentées. Les vendeurs interrogés nous ont indiqué que ce spectacle est vécu depuis plusieurs semaines. La fin de l'année vient simplement enfoncer le clou sur une situation déjà morose. Ils attribuent ce manque d'engouement pendant cette période de fête, entre autres au fait que plusieurs personnes ne sont pas encore payées, ou encore la prolifération de marchés pirates. Ce qui fait que même les rares clients qui pouvaient arriver au marché s'arrêtent là où sont exposés les vivres, les longs des artères qui mènent vers le marché central, aux grandes dames des vendeurs qui sont dans ce marché où ils paient les différentes taxes. Les marchands pirates, pour leur part, disent qui sont à la recherche des clients. Car vendre au marché, c'est s'exposer à toutes sortes de tracasseries de la part de l'administration du marché. Les personnes rencontrées au marché déplorent cependant la révision à la hausse des prix de certains produits de première nécessité tels que le sucre, le riz, l'huile des tables et autres. Ces produits sont généralement importés notamment de la Zambie voisine. Exemple, un verre de sucre qui s'est vendu à 500 francs congolais se négocie actuellement à 800 francs congolais. Il en est de même pour le riz et les haricots, dont le prix ont changé dans la même proportion. Ceux qui achètent sont donc obligés de revoir à la baisse la quantité des biens recherchés, car leur bourse n'a point changé, estime-t-il. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'auditorat militaire des garnisons de Beni Boutembo a ouvert lundi une information judiciaire à charge de certains commandants ADF accusés d'avoir planifié et commandité l'attentat qui a fait 8 morts et 20 blessés le soir de Noël dans la ville de Beni. Il s'agit de Moussa Seck Kabaloukou, le commandant en chef de cette rébellion, Kairi et un dénommé Difenda, tous de nationalité ougandaise, ainsi que Zakaria Amouli Banza Suleiman, alias Bongela Chuma, de nationalité congolaise. Cet attentat avait visé le restaurant Bar Inbox situé sur le boulevard Nyamwisi, l'artère principale de la ville de Beni, alors que de nombreuses personnes s'y étaient réunies pour fêter la Noël. On reste à Beni, premier jour du couvre-feu hier lundi à la suite de l'attentat samedi dernier en pleine centre-ville. La population a observé le mot d'ordre des autorités. Déjà à 19h, local, toutes les rues étaient presque sèches. Sur le boulevard Nyamouissi, le mouvement observé était celui des retardataires qui se précipitaient pour regagner leur domicile. Les engins de la police et de l'armée ainsi que les patrouilleurs étaient visibles dans tous les points chauds de la ville et les autres dans les quartiers pour se rassurer de l'exécution de cette mesure sécuritaire par à la population. On signale quelques interpellations par la force de l'ordre de ceux qui ont été retrouvés en dehors de cette heure limite, mais libérés ce mardi matin. Et puis, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, condamne l'attaque terroriste survenue à Beni, dans le Nord Kivu, lors de la soirée de Noël, le 25 décembre dernier. Il présente ses condoléances aux familles endeuillées et réaffirme la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple congolais en ce moment difficile. Dans son message publié par plusieurs médias en ligne, Moussa Faki invite les autorités congolaises à ne ménager aucun effort pour retrouver et traduire en justice les auteurs de cet acte lâche et inhumain contre des innocents, peut-on ainsi lire. Et on parle santé dans cette édition du journal. En Ituri, 21 cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière sur 135 échantillons qui ont été prélevés au laboratoire de l'hôpital général de référence de Bunia. Les autorités sanitaires provinciales alertent la population sur la quatrième vague de cette pandémie en Ituri et la nécessité pour les habitants de respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. Cependant, Isaac Remoyope, dans les différents quartiers de Bunia, les gens vaquent à leurs occupations au mépris total de ces règles de prévention contre le coronavirus.
Les rapports journaliers du laboratoire de l'hôpital général de référence de Bunia du week-end dernier révèlent que 4 à 5 échantillons ont été prélevés dans cette structure médicale. Les résultats des analyses indiquent que 4 voyageurs ont été testés positifs sur 99. Il y a également 8 suspects investigués et 9 cas contacts sur 25 qui ont été déclarés positifs. Selon les autorités sanitaires, la ville de Bunia reste l'épicentre de cette pandémie avec 17 cas positifs et 3 autres sont enregistrés en Roi-Par à 5 km de la ville. Ces autorités interpellent la population au respect des mesures d'hygiène et des distanciations sociales pour éviter la propagation de cette pandémie en Ituri. Mais du côté de la population, c'est l'indifférence totale. Dans les rues et même dans les maisons de commerce et au marché, rares sont ceux qui portent les cache-nez. Les dispositifs de lavage des mains sont visibles dans certains lieux publics, mais peu de gens se lavent les mains. Les attroupements de la population sans mesure de prévention s'observent presque partout, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Certains soutiennent que la pandémie de COVID-19 ne se propage pas avec la même ampleur qu'avant. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le Nord Kivu, le coordonnateur du programme élargi des vaccinations PEV au sein de l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo salue l'adhésion progressive de la population du Grand Nord Kivu à la vaccination contre la COVID-19. Il a dit dans un point de presse tenu ce lundi à Butembo. Docteur Bernardin Sivi-Olia indique cependant que jusqu'à présent, les femmes adhèrent moins que les hommes à cette campagne de vaccination, mais aussi les personnes âgées par rapport à celles de moins de 55 ans. Il indique que la sensibilisation sera renforcée. La province du Kwilu éprouve d'énormes difficultés pour la prise en charge des malades de COVID-19. Il s'agit du manque de moyens financiers pour la motivation des personnels, le manque de mobilité pour le suivi des contacts et le manque de la logistique adéquate, difficultés couplées à la grève des infirmiers. Le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, qui alerte, annonce pour la semaine prochaine l'installation de nouvelles mesures d'accompagnement pour lutter contre cette quatrième vague du coronavirus dans la province. Docteur Jean-Pierre Bassaké est au micro de Irène Mboum.
Les difficultés, c'est que le paiement du personnel, la mobilité de ceux qui doivent faire le travail, le suivi, et la prise en charge se fait à domicile, ça demande un coût, et les décédés ne sont pas pris en charge du côté entièrement digne, c'est-à-dire que les cercueils et les autres sont encore entre les mains des familles, pendant que le côté sécurité, donc nous faisons les efforts, on n'a pas de sac mortier. Non, par rapport à la surveillance, ce sont les médecins et les techniciens de labo qui viennent, mais les infirmiers et les autres personnels sont en grève. Nous leur demandons de revenir sur le bon sens pour que nous puissions lutter tous ensemble comme un seul homme. Oui, nous avons dit que dès lundi, on va placer les agents à l'aéroport, dans les agences de voyage, GTT classique particulièrement, et au niveau des ports.
Il faut noter que la contagion est très rapide depuis la quatrième vague, précisément dans la ville de Bandundu, qui est passée d'une vingtaine de cas à 69, dont 3 décès en 2 semaines. Parmi ces cas, plusieurs membres du personnel soignant et les autorités sanitaires sont aussi touchés. Signalons que depuis les débuts de l'épidémie, les Kwilu ont enregistré plus de 91 cas de COVID-19. À l'Équateur, les premiers cas liés à la quatrième vague remontent à la fin du mois de novembre dernier. En l'espace de 3 semaines, la province est passée d'environ 20 à plus de 500 cas positifs, dont 14 décès et 20 cas actifs. C'est ce qu'a indiqué le chef de division provinciale de la santé Équateur, Paul-Richard Malengela. Cette montée rapide de cas est due à la négligence des mesures barrières par la population, notamment le port obligatoire du cache-nez en lieu public.
C'est depuis le 11 décembre dernier que la police en Bandaka fait la ronde et traque tous les récalcitrants qui ne portent pas le cache-nez en public. Déjà, certains habitants disent avoir été interpellés et soumis à des amendes. Ce fait a plutôt soulevé la désapprobation de nombreux Bandakais, à l'instar de cette dame rencontrée devant l'hôtel de ville. Les autorités ordonnent de porter le cache-nez pour nous protéger contre la pandémie. En réalité, l'avantage est de nous protéger aussi contre d'autres maladies. Quand on vous arrête avec une amende et que vous n'avez rien, vous allez traîner longtemps à la police, c'est pas bien, nous dénonçons. Malgré le nombre de cas positifs de COVID-19 à l'Équateur, élevé jusqu'à ce lundi à 513 avec 14 décès, certains habitants se montrent encore sceptiques.
Le Bandaka, il n'y a pas cette maladie. Ça devient un sida quoi, avec des médecins. Il n'y a pas la maladie. C'est pour ça que nous déplorons au chef de l'État les mesures qu'on nous a donné de 30 dollars. On doit un peu diminuer. Même 10 dollars, parce qu'il y a d'autres pays qui font ça gratuit.
Quoique cela occasionne parfois des tracasseries policières, le chef de division provinciale de la santé Équateur recommande vivement à la population le port obligatoire et correct des cache-nez, car la négligence peut être fatale. Docteur Jacob Monsalé.
Le risque, c'est la contamination de la personne elle-même. On peut facilement contaminer les individus de son entourage. Et si on a la malchance, on peut facilement perdre l'une de nos personnes très chères.
Bon, d'accord, pour Chamalengue, la radio Okapi.
Et puis en plus bref, la disparition de Desmond Tutu constitue une lourde perte pour l'Afrique dans sa plus grande diversité et le monde entier dans son entièreté, a affirmé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un communiqué signé le 27 décembre par son directeur de cabinet, Guylain Nyembo, le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi qu'à l'Assemblée du peuple de l'Afrique du Sud. Desmond Tutu, évêque anglican sud-africain, est décédé dimanche 26 décembre. Il était prix Nobel de la paix et ardent défenseur de la cause des Noirs au plus fort de l'apartheid. Et puis, la musique congolaise vient de perdre l'un de ses généraux. Le chanteur Lulendo Matumona, alias Général Defao, est décédé hier lundi 27 décembre à Douala au Cameroun à l'âge de 62 ans. La nouvelle annoncée par plusieurs médias en ligne est confirmée à Radio Okapi par son porte-parole de précision avec Jean-Marc Matwaki.
En séjour au Cameroun depuis la semaine dernière, où il devait se produire pour un concert privé, l'artiste Defao Matumona a dû être conduit d'urgence à l'hôpital Lankintini de Douala, selon son porte-parole Henri Noël Ndongala. Né le 31 décembre 1958 à Kinshasa, Général Defao était un excellent chanteur et danseur, doublé de talents d'auteur-compositeur. Il a débuté sa carrière dans les petits groupes de quartier, avant d'intégrer le groupe Grand Zaïko Wawa de Pepe Feli Manoa Kouakou en 1981. De 1983 à 1991, il a marqué son passage au sein de l'orchestre Shock Stars, avant de créer son propre groupe Big Stars en 1991. Amour scolaire, chagrin d'Imone, Aimer la Congolaise et Itachi comptent parmi ses gros succès. Les artistes et musiciens Werason, Ferregola, Barbara Kanam, Roga Roga et Fali Poupa ont exprimé leur tristesse sur leur compte Instagram à la suite de cette disparition du général Defao Matumona.
Actualité internationale.
Au Sénégal, après 5 ans et plusieurs faux départs, le train express régional de Dakar est enfin sur les rails. Un succès important pour le régime de Macky Sall, qui en a fait l'un des symboles de son second mandat. Et puis, le deuil en Afrique du Sud se poursuit après la mort de Desmond Tutu. Ce dimanche 26 décembre, figure de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix en 1994, Desmond Tutu est décédé à l'âge de 90 ans. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu visite à sa femme
femme Léa Toutou et ses proches dans la banlieue de Milnerton au Cap pour leur adresser ses condoléances.
L'invité.
Dans la région de Beni, tous les acteurs impliqués dans la recherche de la paix dans les Rwenzori n'ont pas la même vision. C'est ce qui justifie la persistance de l'insécurité dans cette partie est de la République. Résultat d'une recherche doctorale menée par Jean Bosco Jaribou Mouliwavio de l'Université de Goma. Ces résultats ont été rendus publics vendredi dernier à l'occasion de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à la Faculté des sciences et politiques de l'Université de Kisangani. Qu'est-ce qui explique l'antagonisme ou la contradiction des acteurs sur terrain et que faire pour amener une paix durable dans cette région? Le docteur Jean Bosco Jaribou Mouliwavio s'entretient ici avec Jacques Moukonkolé. Suivez.
Docteur Jean Bosco Jaribou, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Y a-t-il réellement un contraste des acteurs dans la gouvernance sécuritaire dans les Rwenzori?
Nous nous sommes consacrés à la sociologie politique ou à la science politique des ADEF. Quand nous disons une gouvernance sécuritaire antagonique, c'est-à-dire que comme la gouvernance est un domaine multi-acteur qui demande que tous les acteurs soient en symbiose pour résoudre un problème de sécurité, mais ce que nous avons constaté, c'est que les acteurs n'ont pas été ensemble, n'ont pas réfléchi d'une même manière, n'ont pas été dans une même vision, et c'est ce qui est à la base de ce que nous avons appelé controverse au niveau du terrain. Comme les acteurs ne sont pas ensemble, il y a des contradictions entre les acteurs locaux, entre les acteurs internationaux, donc toutes ces contradictions n'ont pas aidé à faire avancer la question des ADEF.
Quels sont les facteurs qui favorisent cette contradiction?
Les facteurs qui favorisent cette contradiction, nous nous sommes mis à l'analyse néo-institutionnaliste. L'analyse néo-institutionnaliste, qu'on appelle aussi de manière vulgaire les toisies, mettent en discussion les rôles des institutions, les intérêts des acteurs et les idéologies ou les représentations des acteurs. Alors, lorsque les institutions ne marchent pas sur une même longueur, donc, avec les intérêts des acteurs et les idéologies des acteurs, c'est ce que nous avons appelé la gouvernance sécuritaire antagonique. Ce sont cela les facteurs. Donc, le gouvernement a ses intérêts là-bas. Évidemment, la consolidation de la paix, la sécurisation du territoire national. Mais aussi, il y a des acteurs qui ont des intérêts.
Quels sont ces acteurs et quels sont leurs intérêts?
Et ces acteurs, on peut les trouver localement, on peut les trouver de l'autre côté de la frontière, on peut les trouver même au sein du gouvernement. Des acteurs gouvernementaux comme certains éléments de l'armée, certains éléments de la police, certains éléments des services spécialisés et même certains civils qui sont dont les intérêts sont en contradiction avec les intérêts de l'État. Ils ont des petits intérêts économiques, des petits intérêts financiers dans les business et ça amenuise totalement les jeux de la redressement de la sécurité et de l'imposition de la sécurité.
Y a-t-il d'autres raisons qui justifie la contradiction des acteurs sur le terrain?
D'abord, la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi stratégique, elle est économique, elle est politique. Il y a des acteurs politiques qui se sont impliqués, qui se sont accusés, au point même de banaliser la guerre. Les gens se sont accusés entre eux et on a perdu le regard sur la présence des ADEF. Il y a aussi des questions locales entre les ethnies, c'est ce qui ne se dit pas, les gens ont peur de le dire. Des ethnies qu'on déplace du Rwanda, qu'on déplace de l'Ouganda, et on manque, ce sont des ethnies originaires du Nord Kivu, qu'on installe dans l'Ituri, qu'on installe au nord de Beni, vers Kainama, qu'on installe dans les territoires du Rumu. Et tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'en menant des actions militaires, il faut aussi mener des actions vont dans le sens de résorber toutes ces questions qui sont communautaires, stratégiques, et toutes ces contradictions à la frontière.
Le gouvernement a instauré l'état de siège à Beni et à Ituri. Et il y a aussi la mutualisation des forces, le FRDC et l'UPDF, là pour tenter de neutraliser les ADF. Quelle est votre appréciation à ce sujet?
Ce sont des preuves qui justifient notre thèse. D'abord, lorsqu'on a proclamé l'état de siège, vous avez vu qu'il y a eu des contradictions au niveau des acteurs. Donc ça justifie notre thèse. Il y en a qui se disent appuyer l'état de siège, notamment le gouvernement central, avec une grande majorité de députés nationaux, mais en d'État, que ce soit à Bounia, que ce soit à Goma, les députés provinciaux ne sont pas d'accord. Or, s'ils étaient d'accord ensemble, on allait voir la communauté locale accompagner l'état de siège. Mais ce n'est pas la réalité. Pour des intérêts des émoluments, pour des intérêts, des petits intérêts politiques, on bloque l'action du gouvernement. Le fait de mutualiser les forces, l'UPDF et les FRDC, prouve aussi que l'état de siège a échoué. Donc c'était une honte pour le gouvernement de dire nous arrêtons l'état de siège, nous décrétons la mutualisation des forces. Ça aura été un échec battant.
Et quelle stratégie proposez-vous pour que les choses reviennent à l'ordre.
J'ai proposé ce que j'ai appelé gouvernance sécuritaire contingente. La contingence, c'est la prise en compte de tous les contours, tous les enjeux qui entourent la question des ADF. C'est-à-dire, lorsqu'on veut résoudre la question des ADF, un, faut savoir que la guerre a des ramifications au niveau local. Cette question a des ramifications au niveau sous-régional et là, des ramifications au niveau international avec l'implication de l'État islamique.
Docteur Jean Bosco, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.